l'heure des informations avec vous, Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Les socialistes en tête lors des législatives espagnoles hier, mais ils vont devoir former une alliance pour gouverner. Les négociations ont commencé. La caravane des européennes s'arrête aujourd'hui en Allemagne. Notre invitée sera la députée allemande verte Franziska Brandner. L'Allemagne où les Grünen sont en bonne position dans les sondages. Une révélation dont Boeing se serait bien passé. Des inspecteurs américains ont envisagé de clouer au sol les avions 737 MAX après la catastrophe de la Lion Air, en cause un système d'alerte uniquement en option. Dans l'actualité française, ce séminaire gouvernemental, ce matin, une journée de travail pour transformer les annonces d'Emmanuel Macron de jeudi dernier en mesures concrètes. Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous, Raphaël Bourgois.
Il sera aussi question d'Europe dans la Grande Table avec le journaliste Ludovic Lamant qui parle de construction européenne au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il sera question d'architecture, son livre Bruxelles chantier apparu chez Lux.
À tout à l'heure. C'est une victoire en demi-teinte pour les socialistes espagnols. Certes, ils sont arrivés premiers aux législatives d'hier et la gauche qui remporte ces élections, cela va rebrousse-poil de la tendance actuelle en Europe. Certes, le président du gouvernement sortant devrait être reconduit et ça aussi c'est devenu rare sur le vieux continent. Mais Pedro Sanchez n'est pas en mesure, avec le PSOE seul, d'obtenir une majorité au gouvernement, ni même avec une alliance avec l'extrême gauche et l'extrême droite Vox, fait une percée. Bonjour Mathieu de Taillac.
Bonjour Antoine.
Le PSOE est donc en pleine négociation pour former une majorité.
Oui, Pedro Sanchez l'a dit hier soir aux militants socialistes qui étaient venus célébrer la victoire devant le siège du parti. Nous allons parler avec toutes les forces constitutionnalistes, ça veut dire avec tout le monde sauf avec Vox, ce à quoi les militants ont répondu par un slogan qu'ils ont scandé, con Ribera no, ça veut dire pas avec Ribera, pas avec le chef de file de Ciudadanos, de centre droit. L'alliance avec Ciudadanos est une possibilité mathématique, mais elle n'est souhaitée ni par ses bases du parti socialiste, ni par la direction de Ciudadanos, qui a répété hier soir et ce matin ce qu'elle a dit tout au long de la campagne, à savoir qu'ils ne veulent pas gouverner avec Sanchez, ils veulent être le principal parti d'opposition, autrement dit chassé sur les terres du Parti Populaire, du PP et de la droite. Reste l'autre voie, un pacte à gauche avec Podemos, mais ça ne sera pas suffisant, il faut ajouter des partis régionaux, dont au moins l'abstention d'un indépendantiste catalan. Ça ne sera pas facile à négocier, surtout avec la droite et l'extrême droite au Parlement, qui n'attendent que cela pour dénoncer la proximité de la gauche avec les séparatistes, et cela surtout pourrait prendre du temps. L'Espagne organise ses élections municipales et régionales en même temps que les européennes et personne ne veut dévoiler ses cartes avant ces nouveaux scrutins.
Merci à vous Mathieu de Taillac en direct de Madrid. Des législatives espagnoles qui tombent à
merci,
un mois des européennes. C'est l'occasion pour nous d'entamer une caravane des européennes. Chaque jour de cette semaine, nous allons nous intéresser à un pays de l'UE. Gros plan pour commencer sur l'Allemagne avec vous Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Les partis de la Grande Coalition perdent de leur superbe dans les sondages. En revanche, on sent un frémissement du côté de l'extrême droite, des libéraux et des Verts.
Oui, des Verts avec un double succès déjà cet automne aux élections régionales en Bavière et en Hesse. Ils s'installent comme la deuxième force politique dans ces Länder. Les Verts allemands sont derrière la CDU d'Angela Merkel. Entre 17 et 20% des intentions de vote selon les sondages d'avril, si il y avait demain, dimanche, plutôt en fin de semaine, des élections législatives. Et puis, pour ces élections européennes, les sondages sont sensiblement identiques. 16 à 19% pour Die Grünen, les Verts, qui supplantent les sociaux-démocrates du SPD, c'est ça la nouveauté en Allemagne, et qui devance le parti d'extrême droite AfD qui avait ces dernières années plutôt le vent favorable. Les gens les récompensent pour leur façon tout à fait concrète de faire de la politique, elle n'est pas dictée par l'extrême droite, ils ont un programme qui ne répond pas à un agenda ou à un narratif des populistes, ils avancent avec des solutions, et c'est ce pragmatisme des Verts allemands, Antoine, qui séduit un électorat aussi bien social-démocrate que conservateur. Les deux forces politiques qui gouvernent ensemble depuis un an sans grand succès. Cette coalition ne marche pas très fort. Les Verts apparaissent donc comme une alternative à ces partis traditionnels, historiques, en même temps qu'un rempart face à la montée du parti d'extrême droite AfD, alternative pour l'Allemagne. Lors des scrutins régionaux de l'automne dernier, il était intéressant de voir que les Verts captaient des électeurs à peu près de toutes les forces politiques. Politique allemande.
Et à côté de vous, Ludovic, Franziska Brandner. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes député au Bundestag, membre des Grünen, le parti vert allemand. Vous parlez parfaitement le français car vous avez étudié notamment à Sciences Po. Vous avez été eurodéputé. L'automne dernier en Allemagne, vous avez déjà eu de très bons résultats dans deux Länder. Là, c'est le troisième test électoral. Les sondages vous classent comme la deuxième force politique du pays. Comment est-ce que vous expliquez cette dynamique chez les Verts ?
D'abord, votre collègue a déjà donné des bonnes pistes de réponse. C'est tout d'abord parce qu'on a mis les grands sujets vraiment en devant. On a dit il faut trouver les solutions au changement climatique. Il faut plus de social. Il nous faut une cohérence démocratique. Il faut défendre l'Europe. Et on n'a pas changé de programme. On n'est pas couru derrière les populistes. On a dit il faut adresser les vrais grands défis de notre société dans ce siècle. Et on a donné des pistes de solutions qui sont très pragmatiques. On a toujours dit on est prête à coopérer avec tous les autres partis démocratiques. Nous, on veut changer, on veut améliorer la vie des citoyens. Et en plus, on a une bonne équipe, on a un optimisme. On a dit, nous, on ne réagit pas par la peur, on ne nous laisse pas faire la peur. Nous, on a du courage, on a envie de changer le monde pour le meilleur. Et on est convaincus qu'on y arrivera. Et jusqu'à présent, ça marche assez bien.
Ludovic Piétonnier, Berlin.
Oui, merci. Je vais enchaîner, hein, Madame Brantner. Tout simplement, vous, votre circonscription, elle se trouve à 600 kilomètres d'ici, au sud-ouest.
En fait, plus proche de la France.
Bah oui, tout à fait. On est à côté de l'Alsace. Vous êtes au Parlement ici, au Bundestag, où vous nous recevez dans votre bureau depuis 2013 et avant, donc eurodéputé. Moi, j'ai envie de vous parler du franco-allemand, parce que justement, votre proximité géographique avec la France vous fait très bien connaître ces questions-là, ce franco-allemand. L'Allemagne a souhaité vivement la victoire d'Emmanuel Macron il y a 2 ans, et puis il a fait des propositions qui sont un peu tombées dans le vide, parce que ici vous n'aviez pas encore de gouvernement. Il y a eu des discussions à Meseberg, ici, près de Berlin, mais sans grand résultat. Il y a eu plus récemment ce traité signé en grande pompe à Aix-la-Chapelle, fin janvier, dans cette grande salle Charlemagne, pour redonner de l'élan à la coopération entre nos deux pays. Mais tout ça, en vrai, ça sonne un peu faux, honnêtement. En tout cas, vous, Franziska Brantner, la relation franco-allemande, elle est dans quel état aujourd'hui ?
À mon avis, elle est dans un état où on a des belles paroles, mais sur le fond, le contenu, c'est creux.
Il y a creux des deux côtés ? C'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas ?
Je veux dire, il n'y a pas de volonté d'action du côté allemand. Au début, c'était dû à la recherche d'un gouvernement qui était un peu plus difficile. On pouvait donner des excuses à dire, bon, on n'a pas encore de gouvernement, etc. Et maintenant, c'est juste une inaction. À chaque fois, il y a des impulsions du président Macron. On peut être d'accord ou non, mais je veux dire, la réponse...
Vous, les Verts, vous êtes plutôt plutôt d'accord, on va dire. Avec des réserves, évidemment, mais de façon générale, plutôt d'accord.
On a des réserves, mais on trouve que le niveau d'ambition est le bon niveau. Et je pense que si la réponse, par exemple, de la présidente de la CDU, c'était on va enlever les sièges de Strasbourg, hein, mais c'est pas ça le problème aujourd'hui, l'Europe. Je veux dire, on a des vrais défis. Au moins, c'est à ce niveau-là que Macron fait des propositions.
Elle a aussi répondu sur le reste des propositions, mais c'est vrai qu'elle a été titillée les Français.
Elle a dit non. Aux autres propositions, elle a dit non.
Mais cette personne dont vous avez parlé s'appelle Annegret Kramp-Karrenbauer, c'est la nouvelle patronne de la CDU. Elle a succédé à Angela Merkel, mais du coup, on a envie de vous demander, ici en Allemagne, qui gouverne ? C'est AKK qui est chef du parti, ou c'est Angela Merkel qui est encore chancelière jusqu'en 2021, comme elle l'a annoncé, avant de se retirer ?
Non, c'est encore Angela Merkel, ensemble d'ailleurs avec les sociodémocrates, qui ne font pas beaucoup plus non plus. C'est le ministre des Finances, c'est Scholz. Nous, on avait tous espéré qu'avec un ministre des Finances des sociodémocrates, M. Scholz, on aura plus d'avancer, par exemple, dans le domaine des taxes, de la digitax, mais ça a été
des
aussi
sur
le numérique, les GAFA, etc. Mais M. Scholz l'a autant bloqué, même plus que Schäuble du CDU l'avait fait avant. Du coup, c'est pas juste Merkel, c'est pas que la CDU, c'est le gouvernement entier qui ne bouge pas, qui a peur, qui est immobilisé. Et moi, je trouve que c'est en ce moment, c'est l'Allemagne qui fait bugger l'Europe.
C'est un mauvais signal à l'échelle du continent tout entier.
Tout à fait.
Mauvaise relation franco-allemande.
Moi, je pense que c'est une des plus grandes erreurs en ce moment du gouvernement allemand, c'est de ne pas avancer ensemble avec la France et l'Espagne et d'autres pays pour vraiment améliorer la zone euro, pour avoir plus de solidarité, pour investir ensemble dans le numérique, dans l'énergie, dans les renouvelables, de faire vraiment le changement de notre économie qui est nécessaire de l'avoir de aussi accompagné de mesures sociales. De ne pas faire ça en ce moment, c'est juste incompréhensible pour moi.
Ici, tous les vendredis, les jeunes se mobilisent énormément en Allemagne, hein, les Fridays for Future. Est-ce qu'on ne peut pas espérer, est-ce que vous croyez à ça, vous, députée verte allemande, qu'Angela Merkel, alors qu'il lui reste deux ans et demi, est-ce qu'elle peut, je ne sais pas, sortir le grand jeu, faire un grand coup politique, taper très fort du poing sur la table, sur la sortie du charbon, par exemple, ici?
Et ce sera la dernière question.
Génial qu'il fera ça.
Vous la croyez pas capable? De ça.
Capable, si, mais je pense pas qu'elle le veut. C'est ça le problème. C'est pas une question de capacité, mais Angela Merkel a toujours été des paroles pro un changement plus favorable au climat, mais elle n'a jamais fait ces dernières années. Nous, on a plus de CO2 qu'avant. C'est incroyable et on ne change rien. Et Merkel, elle dit que Greta est très sympa, etc., mais elle ne change rien. C'est, moi, je trouve ça incroyable. Et c'est là aussi où l'Allemagne bloque. Encore, on aura des nouvelles élections bientôt. J'espère que l'Allemagne reviendra un pays de changement.
Merci. Merci beaucoup à vous, Franziska Brandner, et merci à vous, Ludovic Piétenu. L'autorité bancaire européenne enterre le scandale de la Danske Bank. Entre 2007 et 2014, 200 milliards de dollars d'origine suspecte ont transité illégalement de la Russie vers les États-Unis via la filiale estonienne de Danske Bank. La Commission européenne avait demandé en février une enquête sur ce scandale à l'autorité bancaire européenne. Malgré un rapport interne accablant, celle-ci a décidé de classer sans suite ce dossier sensible qui continue pourtant à faire des remous, Pierre Benazet.
Effectivement, c'est une affaire qui avait été révélée par un lanceur d'alerte britannique, Howard Wilkinson, un ancien directeur des opérations de courtage de la filiale de la Danske Bank en Estonie. Des révélations d'ailleurs qui corroboraient des soupçons transmis dès 2007 par les autorités de supervision bancaire russes à leurs homologues danois. Et ce rapport interne de l'autorité bancaire européenne, présenté le 16 avril à son conseil des superviseurs nationaux, il pointait de graves manquements. Selon ce rapport de 45 pages, les superviseurs bancaires danois et estoniens auraient à eux deux commis 4 infractions différentes au droit européen, avec en particulier un manque de communication entre elles. C'est surtout le superviseur bancaire danois qui est pointé du doigt pour sa mauvaise application des règles européennes contre le blanchiment. Le rapport proposait donc un projet de recommandation d'infraction. Ce n'a pas été l'avis du Conseil de supervision. Il regroupe les 28 agences nationales européennes de supervision bancaire. Par 27 voix contre une, ils ont rejeté la recommandation, estimant simplement qu'il y avait eu faute, mais pas infraction. Cette décision a été vivement critiquée, en particulier au sein de la Commission des finances du Parlement européen. Mais on a même aussi entendu le commissaire européen chargé de la stabilité financière et des services financiers, Valdis Dombrovskis. Il a été jusqu'à regretter l'absence d'action des superviseurs. Et du coup, ce vice-président de la Commission appelle à une réforme du mode de décision à l'autorité bancaire européenne. Et l'affaire Danske Bank n'est de toute façon pas terminée, puisque l'Estonie a ordonné la fermeture de la banque, dont 10 employés ont été arrêtés en février.
Merci à vous, Pierre Benazet, en direct de Bruxelles. C'est une révélation dont Boeing se serait bien passé. Des inspecteurs américains ont envisagé de clouer au sol les avions 737 MAX après la catastrophe de la Lion Air ayant entraîné la mort de 189 personnes. C'était en octobre dernier en Indonésie. En cause, un signal d'alerte désactivé censé avertir des dysfonctionnements du système antidécrochage, un système qui était optionnel sur ces Boeing. Finalement, les inspecteurs avaient renoncé à immobiliser les appareils. Et en mars dernier, un autre appareil de ce type appartenant à Ethiopian Airlines s'écrasait, faisant 157 morts. Et c'est seulement après ce deuxième drame que les avions avaient été immobilisés. Hakim Kasmi a interrogé au téléphone Xavier Titelman. Il est expert aéronautique chez CGI Consulting. Selon lui, ce sont des raisons commerciales qui ont conduit Boeing à rendre ce logiciel optionnel et donc payant.
clairement, l'avion, le Boeing 737 Max à la base, est une réponse à la 320neo, c'est-à-dire l'Airbus qui venait d'être lancé. Boeing voulait prendre quelques années pour développer un avion totalement nouveau, mais comme Airbus avait fait plus de 1000 ventes dès la première année avec son nouvel appareil, il ne pouvait pas se permettre d'attendre des années pour développer un nouvel avion. Et donc, ils ont essayé de mettre à jour leur avion, mais ils l'ont fait relativement vite. C'est-à-dire qu'il y avait des évolutions qui étaient assez importantes à mettre en œuvre entre la dernière version du Boeing 737 et le 737 Max. On ne peut pas dire que les choses ont été bâclées, mais évidemment, on a mis à peu près le même temps que chez Airbus, alors que la modernisation était plus lourde et que dans les mêmes temps, on avait d'autres avions à développer et d'autres avions sur lesquels on avait également des problèmes. En 2013, le Boeing 787, il était cloué au sol et les ingénieurs de Boeing ont passé des centaines de milliers d'heures à trouver des réponses et à corriger cet avion-là. Mais il est évident que Boeing est sur le feu des projecteurs parce qu'ils ont fait des choix pour la vitesse, pour des questions commerciales. Ils ont développé un avion rapidement. Cet avion, une fois qu'il sera corrigé, il n'y a aucun doute sur sa fiabilité totale. Mais là, on se rend compte évidemment qu'il y a eu des défauts dans sa conception. On a dit aux pilotes, pour des questions commerciales, les deux avions sont exactement les mêmes. Vous avez besoin d'une formation qui est tout à fait minime pour passer de l'ancienne à la nouvelle version du Boeing 737. Et il se révèle qu'on avait des systèmes supplémentaires pour lesquels les pilotes n'étaient pas préparés. Et ça, c'est un gros défaut. Donc, les arguments commerciaux ont pris le pas sur des questions de sécurité aérienne, c'est aujourd'hui avéré.
Xavier Tittleman avec Hakim Kasmi. Direction Kaboul maintenant, une Loya Jirga, une grande assemblée consultative réunissant 3200 personnes de tout l'Afghanistan, s'est ouverte ce matin. Son objectif, discuter de la paix. Le président Ashraf Ghani en est à l'initiative. Cette assemblée va durer 4 jours. Plusieurs personnalités politiques ont décliné l'invitation. Et malgré tout, c'est l'optimisme qui règne au sein de l'assemblée. Sonia Ghezali, correspondante de RFI à Kaboul.
Parler librement, je ne veux pas que vous vous censuriez. Le président Ashraf Ghani a donné le ton de cette Loya Jirga, que chaque participant exprime sa pensée sur les discussions de paix. Il a également envoyé un message aux talibans qui ont refusé de participer à la grande assemblée consultative, les remerciant de ne pas avoir interdit à la population qui vit dans des territoires sous leur contrôle de participer à la Loya Jirga. C'est Abdurrab Rasul Sayaf, l'ancien chef de guerre qui a combattu contre les Russes durant l'invasion soviétique dans les années 80, qui a été nommé président de l'Assemblée traditionnelle. Les talibans sont nos frères, a-t-il répété. Le président a raison lorsqu'il les présente comme des opposants politiques. Aucune agressivité donc dans le discours à l'égard des talibans, ni à l'égard de ceux qui ont choisi de ne pas participer, comme le chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah, candidat à la présidentielle de septembre prochain. Ils ne sont pas contre la paix, a affirmé Sayaf. À ceux qui craignent de voir s'installer un régime comme celui des années 90, lorsque les talibans gouvernaient, il répond « Non, nous formulons une invitation à cohabiter », a dit Sayaf. Dans l'Assemblée, les propos sont accueillis par des formules de félicitations et de remerciements, scandées à l'unisson par plusieurs participants, 3200 personnes réunies au total et qui débattront dans le cadre de comités qui seront définis cet après-midi.
Midi 47 sur France Culture. Comment lutter contre la vague de suicides chez les forces de l'ordre? 28 policiers et 2 gendarmes se sont donné la mort depuis janvier en France. Un chiffre beaucoup plus élevé que l'année dernière. Le ministre de l'Intérieur vient de lancer la cellule Alerte Prévention Suicide. Menaces terroristes, mouvements sociaux, les policiers accumulent les heures supplémentaires et la fatigue. Le patron de la police nationale, Éric Morvan, a envoyé une lettre vendredi aux 150 000 policiers pour les encourager à parler plus librement du suicide. Maud Calvez a joué au téléphone le professeur psychiatre Nicolas Chauliac, membre du groupement d'études et de prévention du suicide. Il connaît bien ce phénomène car il a déjà suivi plusieurs patients policiers et suicidaires.
J'ai peu eu de remarques sur le rejet de la part de la population. Par contre, effectivement, il me semble, et de ce qu'ils m'en disent en tout cas, que la gestion des ressources humaines n'est peut-être pas optimale, en tout cas qu'ils se sentent mal considérés par leur hiérarchie. On peut imaginer que c'est effectivement un facteur de risque pour l'idée suicidaire, oui. Dès lors que l'on parle du suicide dans une institution, que ça devient un sujet, disons, un peu plus visible, ça peut déjà aider à certaines personnes à en parler plus facilement, aider l'entourage ou l'environnement à s'inquiéter un peu plus facilement pour des personnes qui semblent aller mal. Ces deux choses-là, c'est vraiment les choses les plus indispensables pour bien prévenir le suicide. C'est pas suffisant. Il faut probablement former aussi la hiérarchie, des personnes ressources qui soient plus proches des personnels. ce genre de politique, de formation, de communication, c'est des politiques qui ont montré leur efficacité, par exemple dans l'armée de l'air américaine il y a quelques années.
La police qui a été visée par un attentat, puisque 4 personnes soupçonnées de préparer une attaque contre des forces de l'ordre, sont en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Parmi ces suspects figure un mineur déjà condamné à 3 ans de prison pour avoir cherché à se rendre en Syrie. Les 3 autres personnes majeures sont connues pour des faits de droit commun. Séminaire gouvernemental ce matin, tous les ministres se trouvent autour du premier d'entre eux à Matignon depuis 9h. Ils sont rassemblés pour une journée de travail qui vise à transformer l'essai du chef de l'État. Après les annonces d'Emmanuel Macron jeudi dernier lors de sa conférence de presse, le gouvernement a la charge de mettre en musique ce train de mesures et notamment d'en préciser le calendrier, Rosalie Lafarge.
Oui, et l'heure est au grand sourire chez les ministres ce matin, heureux de se remettre sérieusement au travail après 2 mois de grands débats et 5 mois de crise des gilets jaunes, peut-être, en tout cas pressé d'avancer. Le Premier ministre le sait, l'enjeu, c'est le calendrier.
C'est une journée de travail intense pour construire, si j'ose dire de façon triviale, le qui fait quoi et quand. Le président de la République nous a demandé d'aller vite et nous sommes déterminés à faire vite et à faire bien. Ça exige forcément de caler toute une série de choses pour aboutir au bon résultat.
Et aboutir vite, Emmanuel Macron veut un projet de réorganisation de l'administration le mois prochain. Il souhaite aussi présenter la réforme des retraites et celle des institutions dès cet été. Il y a du boulot et le Premier ministre veut que tout le monde s'y mette, pas seulement le gouvernement. Pour la première fois dans ce type de réunion, Édouard Philippe a convié les représentants de la majorité parlementaire.
On arrive à un moment où nous devons, au fond, avoir la même vision des contraintes, la même ambition, discuter, travailler en commun. Plutôt que de le faire texte par texte, comme nous l'avons toujours fait, il m'est apparu opportun de pouvoir associer un certain nombre de parlementaires à la définition du calendrier, de nouveaux instruments, d'une nouvelle méthode, pour traduire concrètement les annonces formulées par le président de la République.
Cet après-midi, 4 ateliers sont au programme, le calendrier parlementaire, la méthode, la réforme constitutionnelle et les nouvelles solidarités, notamment la dépendance. Mais l'équation la plus délicate, c'est à Bercy de la résoudre. Il faut trouver comment financer les mesures, à commencer par les 5 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le revenu.
Merci à vous, Rosalie Lafarge, en direct de Matignon, avec à la technique Romain Luquiens. Un journaliste de France Info version télé victime de cyberharcèlement sur sa chaîne YouTube, une chaîne consacrée à débusquer les fake news, les fausses informations. Depuis quelques jours, Julien Pain reçoit des centaines de messages haineux et d'avis négatifs qui atteignent directement la visibilité de sa chaîne YouTube. Bonjour Maxime Fayolle.
Bonjour.
C'est un phénomène malheureusement assez courant que celui des campagnes d'insultes en ligne, de harcèlement. La particularité ici, c'est qu'il s'agit d'une attaque coordonnée.
Attaque de grande ampleur, oui, dont l'origine précise reste encore à préciser. Julien Pain, grâce à des internautes, a pu retrouver certains messages postés sur des forums qui appellent clairement à saturer sa chaîne de commentaires négatifs.
C'est toute une stratégie extrêmement bien faite, extrêmement organisée. On voit qu'elle est rodée. Cette fachosphère est capable ensuite d'aller demander un coup de main à des fachosphères d'autres pays. Donc ce qu'ont fait les internautes de ces sites d'extrême droite, c'est qu'ensuite ils sont allés poster des messages en anglais sur 4chan, qui est leur équivalent, mais dans le monde anglophone. Et donc ensuite, c'est des internautes qui venaient du monde entier qui sont venus attaquer ma chaîne.
Des attaques qui ont des conséquences pour cette chaîne, car l'algorithme de YouTube va s'emballer, comprendre que la chaîne n'est plus assez aimée, plus assez bien commentée, et va donc lui donner moins de visibilité. C'est un problème auquel YouTube doit s'atteler, selon Julien Pain.
Aux États-Unis, c'est un phénomène qu'ils ont déjà analysé, qui s'appelle les « dislike mobs ». Donc en français, ça donnerait les meutes du pouce vers le bas. Donc c'est des phénomènes qui sont connus de YouTube. Et pour l'instant, ils trouvent pas la solution. Ou alors, ils veulent pas la trouver. C'est-à-dire qu'en fait, la solution, ça serait d'enlever par exemple la fonctionnalité de dislike, donc du pouce vers le bas. Soit on aime la vidéo, soit on réagit pas. Ensuite, ça serait d'avoir des meilleurs outils de modération des commentaires pour s'assurer que c'est pas des commentaires automatiques de gens qui ne regardent pas les vidéos. Il y a sûrement plein de solutions pour YouTube, mais c'est pas un vrai problème pour eux puisque c'est pas là qu'ils font leur argent.
Et de son côté, YouTube affirme modérer avec force les commentaires négatifs. 224 millions ont été supprimés entre juillet et septembre 2018. Quant aux obligations imposées par la récente directive droit d'auteur, YouTube attend la transposition en droit français avant de se prononcer.
Merci à vous, Maxime Fayolle. La France accueille à partir d'aujourd'hui des experts mondiaux de la biodiversité sous l'égide de l'ONU, des scientifiques et des diplomates de 130 pays pour adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de 15 ans. Cet après-midi, le soleil va dominer sur l'ensemble du pays. Quelques nuages viendront troubler ici et là cette belle luminosité. Les températures vont rester fraîches. 12 degrés au Havre, 17 à Paris, 21 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec Brice Garcia. Prochain journal à 18h. Il vous sera présenté par Stanislas Vazak.